C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Parlons COVID, mais surtout parlons des écoles, parce que le nombre d'éclosions est quand même plus qu'important, là. Puis, je regardais les chiffres de la presse ce matin, et on nous dit que le Québec est la province qui compte, là, on tient évidemment en considération la population, là, mais qui compte le plus grand nombre de nouveaux cas. Et on le sait que chez les enfants, c'est moins grave. La plupart, évidemment, ont de légers symptômes, mais c'est quand même préoccupant parce que ça a un impact. Quand tu dis que quoi, 40 % des écoles ont été touchées, qu'il y a encore beaucoup d'éclosions qui sont en cours, il y a pas loin de 4600 cas actifs au Québec, puis il y a des tests, puis il y a des classes qui ferment, puis parfois des écoles. Donc, au-delà du côté médical, il y a l'organisation pour les parents. Et c'est vraiment là, puis je sais que pour plusieurs, c'est une fin d'année extrêmement difficile. Difficile parce que il y a ces journées de grève dans les CPE, il y a la rentrée scolaire, il y a le télétravail, il y a le fait que quand il y a une grève, il faut que tu t'organises. Puis là, tu as un test, l'école t'appelle, ou le CPE t'appelle, viens chercher ton enfant, il y a peut-être un potentiel de cas, puis bon. T'sais, l'expression là, « à bout » vient de prendre tout son sens pour énormément de parents. Donc, on se retrouve avec quand même beaucoup de cas. Et on va distribuer, Québec l'a annoncé hier, des tests rapides aux enfants du primaire. Bref, les parents vont pouvoir avoir, comme on dit, des kits pour passer des tests. Et le test fait partie de l'arsenal. C'est un outil de plus. Pour ce qui est des adultes, il devrait y avoir une entente annoncée bientôt avec les pharmaciens. Et je rappelle que le principe, c'est la gratuité. Les gens n'auront pas à payer pour obtenir ces fameux tests rapides. Puis pour la période des fêtes, c'est important. Alors, c'est sûr que quand vous regardez ce qui se passe, la période des fêtes, des rassemblements, les cas dans les écoles, ben c'est à peu près certain qu'on va avoir un nombre élevé de cas au retour des fêtes au mois de janvier. La question, puis avec le nouveau variant, qui n'est pas encore très présent au Québec, là, quelques cas de confirmés, est-ce qu'on va avoir une pression à nouveau très forte sur le réseau de la santé, ou si les cas, compte tenu de la vaccination de la population, puis bref, situation qui a quand même changé entre la première, deuxième et troisième vague, puis quatrième vague, ça va nous permettre de mieux naviguer à travers tout ça. Point d'interrogation. On peut pas, mais c'est sûr qu'il y aura des cas. Tout le monde le reconnaît, mais le ministre de la Santé, lui, a pas l'air de trop s'inquiéter de l'évolution du nombre de cas. Alors, c'est un peu le portrait. Et l'autre chose, Dr Weiss sera avec nous. Je veux également parler, pas de la COVID, mais du fait qu'il y a des enfants très jeunes qui souffrent de problèmes respiratoires. Puis on me raconte des situations dans les hôpitaux, notamment les hôpitaux spécialisés pour enfants, où il y a pas mal d'enfants qui se présentent, puis c'est pas toujours des cas légers, là, avec... Et la conclusion de ça, on se passe pas les bébés durant le temps des fêtes. Ça a l'air un peu carré, là, mais, tu sais, quand tu te ramasses dans une soirée, puis il y a 15, 20 personnes, mettons, même si tout le monde est vacciné, puis tout le monde veut prendre le petit bébé de 6 mois, puis de 8 mois, puis 1 an, puis, tu sais, il se promène d'un bras à l'autre, pas certain que c'est la meilleure chose à faire, de façon générale, mais particulièrement dans ces moments-là. Hier également, on a eu le rapport de la vérificatrice générale sur le cafouillage dans les aéroports. Donc, ce que la vérificatrice constate, c'est que on a, durant, par exemple, au printemps 2020, l'agence était incapable de confirmer si les gens... Puis là, on parle des deux tiers, là, des gens qui arrivaient au pays respectaient les conditions de la quarantaine. On n'a pas été en mesure de joindre 14 % des voyageurs qui avaient reçu un résultat positif. Et un an après, l'agence n'avait pas pu vérifier s'ils avaient respecté leurs obligations en matière de quarantaine. C'était tombé à 37 %. Là, je vous parle toujours de l'agence qui est supposée implanter le test obligatoire au retour à l'aéroport même. Là. et que ça doit être déployé bientôt. Alors, tu sais, c'est toujours ça. C'est pas de passer un test, c'est la capacité de remplir la demande, puis deuxièmement, de donner des résultats. Dans certains cas, on me dit que les tests aléatoires, c'est quand même pas si mal, ça va assez vite, mais il y a d'autres personnes qui me disent que dans leur cas, ça a été quand même pas mal plus long et pas mal plus compliqué. Parlons du cas de cette enseignante à Chelsea, en Outaouais, qui a été retirée de sa classe, une école primaire anglophone, parce qu'elle portait le voile. Je pense que c'est le premier cas, là. En tout cas le premier cas public, d'une enseignante qui ne peut plus enseigner en raison de sa décision de porter le voile. Et c'est une enseignante qui était une suppléante troisième année dans cette école depuis à peu près un mois. Et on sait que la loi est très claire là-dessus, interdit le port de signes religieux. Et c'est vrai pour les centres de services scolaires. Il y a eu des contestations, il y a toujours des contestations devant les tribunaux. Mais on a appliqué le règlement. Puis, selon le syndicat, c'est une situation triste, mais c'est quand même des règles qui sont connues. Et j'imagine qu'un parent qui l'a signalé ou quelqu'un d'autre, un collègue de travail, bref, ça a été porté à l'attention des autorités. Et elle commente un peu ce matin dans The Gazette. Elle dit qu'elle a été d'abord très touchée des appuis, du support qu'elle a reçu de l'école, des parents et même des enfants. Elle dit « j'ai pas voulu impliquer personne dans l'école face à ma situation ». On sait qu'elle a été relocalisée ailleurs dans d'autres fonctions qui ne sont pas des fonctions directement d'enseignement. Et elle dit que c'est pas une question de religion pour elle, c'est une question de culture. Ça fait partie de sa culture, puis que c'est important de pouvoir, comme ça, porter ce signe. Alors, il y a évidemment tout le débat qui est reparti là-dessus. Mais il n'y a pas eu vraiment beaucoup de cas au Québec. Je pense que c'est, en tout cas, le premier cas. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas postulé là, pour parce qu'ils voulaient garder leur signe religieux ou culturel. Mais voilà pour cette question. Et puis, un mot ce matin. Je parlais hier du coût du panier d'épicerie. Le ministre des Finances... M. Éric Girard dit que les Québécois, dans l'ensemble, sont en bonne posture pour faire face à l'inflation. Dans la presse, on nous explique que le prix du café ne cesse d'augmenter. C'est un produit parmi d'autres, là. Mais c'est à quoi? 1 000 en moyenne, famille de 4 là, de plus pour le panier d'épicerie pour l'an prochain. Je comprends que les Québécois qui travaillent, qui ont eu des grosses augmentations, puis des Québécois qui... financièrement sont confortables, sont peut-être en bonne posture. Mais des gens qui ont des revenus fixes, des gens qui ont pratiquement là, la même rémunération, des personnes à la retraite, des rentiers, comme on dit, eux, là, ils trouvent pas ça drôle. Puis je pense pas qu'ils sont en bonne posture. T'sais, on peut regarder ça, dire finalement, le Québec s'en sort pas si mal. Mais vous irez voir les gens là, qui font l'épicerie, puis des familles monoparentales, puis des personnes âgées qui vivent seules, ou même avec le conjoint. Puis tu sais, les revenus ne bougent pas, là. C'est pas la régie des rentes là, qui augmente ça de façon importante. Puis les placements, les rendements sont peut-être pas aussi extraordinaires qu'il y a quelques années. Bref, ton revenu ne bouge pas, puis la facture grimpe, elle. Fait que je pense pas que... on peut tirer une conclusion aussi heureuse que celle-là.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Après quelques heures de délibération seulement, le jury a conclu que la belle-mère de cette pauvre petite fille de Granby était coupable de meurtre au deuxième degré et de séquestration. Les avocats vont plaider sur sentence, mais on va essayer de comprendre un peu quels étaient les choix qui étaient offerts aux membres du jury et légalement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Maître Denis Galland est avec nous. Bonjour, Denis.
Bonjour, Paul.
Alors, les options, c'était quoi exactement?
Bien, je veux dire, les options, dans ce cas-là, il y avait une accusation de meurtre au deuxième degré, il y avait une accusation de séquestration. Les options également, le juge pouvait avait ouvert l'homicide involontaire coupable. Donc, et je te dirais que ça fait une grande différence. Donc, si, par exemple, le jury en serait revenu à la conclusion que madame était coupable plutôt d'homicide involontaire coupable plutôt que meurtre au deuxième degré, c'est que la grande différence, c'est qu'il n'y a pas de minimum pour un homicide involontaire coupable, alors que pour un meurtre, que ce soit un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré, la peine maximale et la peine minimale est la même, soit la perpétuité.
Juste avant d'aller plus loin, explique-moi la différence entre un meurtre non prémédité et un homicide involontaire coupable.
Ben, c'est-à-dire deux choses. C'est-à-dire qu'un meurtre en tant que tel, c'est la mort d'un être humain qui, on cause la mort soit intentionnellement, soit qu'on cause des lésions corporelles, des blessures de nature à causer la mort, et on est indifférent à savoir que la mort s'ensuive ou non. Tandis qu'un homicide involontaire coupable, je te donne l'exemple suivant, c'est-à-dire que j'ai pas l'intention de causer la mort, j'ai pas l'intention non plus de causer des blessures que je sais être de nature à causer la mort, mais compte tenu que je commets un acte illégal et il y a la mort d'un être humain, ben le droit criminel va me punir. Puis je te donne l'exemple classique, bagarre entre deux individus, je pousse une autre personne, elle tombe, elle se frappe la tête sur le trottoir, par exemple, et elle décède. J'ai jamais eu l'intention de causer la mort ou j'ai jamais eu l'intention de causer des blessures dont je sais de nature à causer la mort. Dans ce cas-là, regarde, j'ai poussé la personne, mais finalement, il y a eu la mort d'un être humain et j'ai posé un acte illégal. Puis ensuite de ça, ben là, il pourrait y avoir le simple accident, là, mais l'homicide involontaire coupable, okay. La différence qui fait basculer ça dans le droit criminel, c'est que j'ai posé un acte illégal. Dans ce cas-là, une voie de fait ou autre chose.
Bon, alors, si je reviens à ce verdict de meurtre non prémédité, c'est que le jury conclut quoi? Qu'elle a posé des gestes, que ce soit la séquestration, le fait qu'elle ait été enrubannée, cet enfant-là, qu'elle ait été bousculée, enfermée dans une chambre, que tout ça, finalement, a conduit à sa mort?
Ben, tout à fait. Et voilà, première des choses, c'est-à-dire que tout ça, au-delà, c'est pas un homicide involontaire coupable, le jury en arrive à la conclusion, effectivement, qu'elle a posé des gestes dont elle savait pouvait être de nature à causer la mort. Puis, je veux dire, on reviendra pas dans tous les faits, mais je veux dire, enrubanner une personne de cette manière-là, la preuve du ministère public était assez concluante à cet effet-là. Donc, le juge n'a pas eu de doute à cet effet-là sur son intention de causer des blessures dont elle sait de nature à causer la mort. C'est pour ça que tu as eu un verdict, puis tu as eu un verdict aussi rapide aussi.
Bon, justement, la rapidité, est-ce que toi, ça t'a surpris, quelques heures seulement?
Ben moi, je te dis que j'ai fait beaucoup de procès devant jury dans ma vie. J'ai jamais eu ça, un verdict en cinq heures. Ceci étant dit, ça veut dire, ça démontre deux choses, Paul. C'est-à-dire que, un, la preuve, elle était convaincante. Les jurys n'avaient aucun doute. Et deuxième des choses aussi, ce qui est utile de souligner, c'est que madame a témoigné. Et ça veut dire, ça nous donne un indice. On ne saura jamais parce que c'est le secret du délibéré. Mais ça veut dire carrément qu'ils l'ont pas cru, là.
Est-ce que ça se peut que les textos qui ont été présentés, qui traduisent son état d'esprit au moment justement où elle pose des gestes face à l'enfant, puis ça dénote à quel point elle haït cet enfant-là, même si elle a dit le contraire, que de lire ces notes-là, de prendre connaissance de son état d'âme, son état d'esprit, ça vient comme régler l'affaire dans la tête des membres du jury?
Effectivement. C'est-à-dire que ça ajoute à la preuve circonstancielle. Donc, les jurys, quand ils reçoivent leurs instructions du juge, c'est qu'ils doivent prendre la preuve dans son ensemble. Donc, la preuve du ministère public, la preuve de la défense, puis effectivement, ça a démontré l'état d'esprit de la dame en tant que telle. Et ça a ajouté à la preuve du ministère public.
OK. Là, tu disais donc que, automatiquement, c'est une peine à vie, perpétuité. Il faut quoi? Fixer le moment où elle pourra demander une libération conditionnelle?
Ben, tout à fait. C'est-à-dire que, compte tenu qu'elle était trouvée coupable de meurtre, je veux dire, c'est la même peine, c'est juste ce qui change, c'est la période à laquelle elle va pouvoir demander une libération conditionnelle. Donc, ça avait été reconnu coupable de meurtre premier degré, je veux dire, elle ne pouvait pas faire ça avant 25 ans. Au niveau du meurtre au deuxième degré, c'est le juge, OK? Parce que un procès devant jury, la culpabilité et l'innocence, ça, c'est le rôle du jury, c'est le juge des faits, ils ont décidé, donc finalement, le jury, là, il est dissous, puis là, c'est le juge Dionne qui devrait devra fixer la peine, elle est mandatoire, mais devra fixer la période de laquelle elle va pouvoir demander. Et ça, le législateur prévoit que c'est entre 10 et 25 ans, donc le juge pourrait fixer 15, 20 et même plus, là. Et également, ça, ce que j'ai lu aussi, c'est que le jury ne l'a pas fait, mais ça, c'est une particularité dans le code criminel, c'est qu'après procès devant le jury, le juge demande au jury s'ils peuvent faire une recommandation quant à la période en tant que telle. Ce que j'ai compris, c'est que le jury a décidé que non, donc le juge dit on a dissous le jury, et je pense que c'est vendredi prochain que les avocats vont plaider sur la période de entre 10 et 25 ans.
Merci, Denis.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Maître Denis Galland, ajoutons deux ou trois éléments. D'abord, on a pris connaissance d'éléments qui ont été cachés aux membres du jury, notamment que la belle-mère en question avait des antécédents, avait déjà frappé l'enfant, lancé l'enfant au sol, avait été arrêtée. Bref, il y a un historique de violence dans la relation entre la belle-mère et l'enfant. Et on le sait que c'est un enfant qui a été échappé par le système, puis c'est un enfant qui s'est retrouvé entre les mains d'adultes irresponsables. Beaucoup de gens me demandent, y arrive quoi avec le père? Le père va subir son procès, c'est prévu pour le mois de janvier, et on parle de d'autres chefs d'accusation, notamment de négligence, de ne pas avoir porté assistance. Mais celle qui avait les accusations les plus sévères, c'est évidemment la belle-mère, donc, qui a été reconnue coupable de meurtre au deuxième degré. Le drame de cet enfant de Granby, ça a été l'élément déclencheur de cette commission d'enquête, commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, qu'a présidé Régine Laurent. Elle est avec nous ce matin. Bonjour, Régine.
Bonjour.
J'aimerais t'entendre sur tes réactions, tes commentaires quand tu as pris connaissance du verdict qui est tombé hier après-midi.
Ça a été un torrent de larmes. J'avais des frissons, j'avais froid, j'avais chaud. Je savais plus où me mettre. C'était comme... Puis jusqu'à ce matin, je suis pas encore capable de comprendre cette réaction-là, de mettre un mot dessus. Oui, soulagement, mais en même temps, j'arrêtais pas de penser à la petite, j'arrêtais pas d'avoir des flashs de ce que j'avais lu dans le dossier. Tu sais, à un moment donné, je disais, en tout cas, j'espère que tu vas nous pardonner de pas avoir su te protéger. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, mais c'est vrai que c'est un soulagement.
T'as même commencé ton rapport avec une lettre que t'adresses à cette petite fille-là,
oui.
Où tu parles des hommages qui lui ont été rendus, de l'amour que les gens... ça a tellement secoué le Québec. Mais en même temps, on se dit, cet enfant-là, on l'a échappé complètement, on l'a laissé seul.
Oui, et c'est ça devrait nous... On devrait garder ça en tête collectivement tout le temps pour être capable de changer les choses, parce que souvent je me disais, cette petite-là, comme tous les enfants, compte sur tous les adultes de son entourage pour la protéger, pour l'aider, pour en prendre soin. Et elle n'a pas été capable de trouver ça à la maison. Il y avait l'école, il y avait la police qui était intervenue quelquefois dans cette maison-là. Et je me disais que partout où elle a regardé, partout où elle a posé les yeux, partout où elle a essayé peut-être de lancer des cris, ben il y a personne qui l'a pris pour vrai, là, puis dit ok, je vais m'occuper de toi. Et ça, c'est quelque chose de terrible comme sentiment. Puis j'essaie de m'enlever ce qu'elle a pu vivre dans sa tête de petite fille, mais c'est vrai qu'on l'a échappé. On l'a échappé.
Ce qui est très frappant aussi, quand on a écouté les témoignages au procès, oui. Là, tu soulignes là, le fait qu'elle n'a pas trouvé d'adulte assez, je dirais, allumé, bienveillant pour lui tendre la main puis la protéger. C'est oui. De voir cet enfant-là qui fait des fugues, qui va, oui. Qui se fait frapper, qui va porter, qui cherche du secours au dépanneur, qui, avant d'être retrouvé, enrubanné, va chez le voisin, se promène à l'extérieur. Puis à l'école, vole des lunchs parce qu'elle a faim. C'est un enfant qui envoie des signaux, ça, là.
Beaucoup, beaucoup de signaux de détresse. Puis quiconque a eu des enfants ou a des enfants dans son entourage, ce sont tous des comportements qui ne sont pas normaux. Ce sont tous des grosses lumières rouges, des cris, parce qu'un enfant, ça crie, ça envoie des signaux de détresse à sa façon. Et regardez là, quand même, c'était toujours fascinant, malgré tout ce qu'elle vivait, cette petite-là, son intelligence. Tiens, il y a de la nourriture au dépanneur, je vais aller en prendre parce que je suis plus capable, j'ai faim, je vais voler des lunchs. C'est des façons de lancer des cris d'alarme, mais on les a pas entendus. Et c'est là où je me dis, bon, il faut qu'on garde ça, je disais tantôt, il faut qu'on garde ça en mémoire parce que il faut continuer et avancer pour changer les choses. Souvent, on dit, il faut pas qu'une mort soit vaine. Mais dans ce cas-là, il faut pas l'oublier jamais, cette petite-là, pour obliger nous à changer, nous collectivement, nous à se mêler de ce qui se passe pour les enfants de notre entourage, pour les enfants de notre quartier. Et il faut s'en mêler, parce qu'on sait maintenant jusqu'où ça peut aller. On sait, puis on a appris qu'est-ce que ça veut dire quand on barouette un enfant d'une maison à l'autre, c'est quoi les problèmes que ça pose, puis pour longtemps. On souhaite qu'il s'en sorte, mais ça crée des problèmes majeurs pour le développement de l'enfant. Ça crée des problèmes affectifs qui sont importants. On le sait maintenant. Fait qu'il faut nous s'en mêler de ce qui se passe de tous les enfants au Québec. Et il faut être capable de demander des comptes aussi à nos décideurs. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour changer les choses? Il faut demander des comptes. On a le droit, on a le devoir de le faire.
Je pensais à la recommandation principale, ou en fait, je devrais dire l'espèce de principe de base du rapport, qui est de dire, puis c'est pas une phrase creuse, là, de mettre l'enfant au cœur des décisions puis des priorités. Là.
Oui.
Là, je me disais, si cet enfant-là, par le système puis par les adultes autour, avait été la priorité, là, mettons que ça aurait été bien différent.
Oui, oui, parce que, et pour une chose extrêmement importante, je vais donner un exemple pour expliquer, c'est que cet enfant-là était chez quelqu'un de la famille, en l'occurrence la grand-maman. Elle avait un bon développement. Elle avait un comportement de tout petit enfant. Et au moment où on prendrait la décision de retourner chez papa ou chez belle-maman, ben on aurait dû regarder, OK, cet enfant-là va bien. Elle a un bon développement, elle a une sécurité affective. Bon, est-ce que la retourner dans sa famille d'origine ou biologique, est-ce que c'est ça qui est dans son intérêt? Et c'est d'évaluer, est-ce que ça risque d'être un succès, ce retour, avec tous les services qu'on peut donner? Si c'est un succès, parfait. Mais s'il y a un risque important d'insuccès, pourquoi on ferait payer cet enfant-là de la déraciner du milieu où elle est bien, où elle est dans son bon développement? C'est ce que ça voudrait dire. Moi, c'est comme si les changements qu'on apporte à la loi de la protection de la jeunesse, on nous oblige à avoir une grille d'analyse où la seule personne qui est au centre de cette grille d'analyse, c'est l'enfant. Et ça, c'est majeur comme changement, mais comme changement qu'il faut accepter aussi dans la société. Oui, on va tout faire pour les parents, mais il faut accepter comme société qu'il y a des enfants qui ne retourneront pas chez leurs parents parce que c'est la meilleure chose pour eux.
Régine, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, Paul. Bonne journée.
Bye. Régine Laurent, présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.
L'essentiel de Paul Arcan.
Très bien. On va faire le point sur le dossier COVID ce matin. On voit le nombre de cas chez les enfants, donc dans les écoles. Il y en a beaucoup. On dit que 40% des écoles ont au moins eu un cas et que il y a beaucoup d'éclosions. Puis il y a beaucoup d'enfants qui testent positifs. Il y a toujours le variant qui préoccupe. Alors, on fait, disons, le tour de la question avec le docteur Carl Weiss. Docteur Weiss, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Je vais commencer avec le variant. Est-ce que depuis la dernière fois où on s'en est parlé, on en sait un peu plus?
C'est encore, oui, on en sait un peu plus. Ça montre qu'on est capable d'avoir de l'information très rapidement. Donc, première chose, les données montrent que il semble pas plus dangereux que les précédents variants, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Ce sont bien sûr des données très préliminaires. Deuxièmement, on sait que le variant est très présent dans pas mal de pays sur la planète. On a vu par exemple la Grande-Bretagne qui a un excellent système de dépistage au niveau du séquençage et on parle de plusieurs centaines de souches. On voit que beaucoup de pays européens ont été infectés par ça. On sait qu'on a quelques souches au Québec qui sont des souches circulantes, principalement chez des voyageurs, peut-être des souches chez d'autres types de populations, on verra. Mais pour l'instant, c'est certainement pas très prévalent dans notre environnement. On sait que le vaccin protège contre la maladie sévère. Donc les gens qui ont été vaccinés, c'est pas zéro protection contre ce variant, mais surtout contre la maladie sévère, ce qui est important. Et on sait que l'importance de la troisième dose des vaccins à ARN augmente de façon importante la protection contre ce variant. Donc on est rendu là à peu près, on va dire, 2 semaines après avoir commencé l'histoire et la saga du variant Omicron.
Bon, l'autre question, selon les dernières données, là, le Québec serait la province, et la province en fait, qui compte le plus grand nombre de nouveaux cas, même quand on tient compte de la population. Comment expliquer ça?
Alors tout à fait, le Québec est la population qui est le plus affectée actuellement. Il y a probablement un ensemble de facteurs par rapport à ça. Probablement au niveau, je vous dirais, du fait qu'il y a certains groupes qui sont moins vaccinés que d'autres. Quoique lorsqu'on regarde les cas au Québec, ils sont principalement, pas tous, mais de façon disproportionnée chez les plus jeunes. On va dire que 25% des cas, globalement, ont moins de, on va dire, 20 ans. L'autre chose aussi au Québec, c'est qu'on a beaucoup d'éclosions au niveau des écoles. Oui, on a une augmentation importante du nombre de cas ces derniers temps, surtout par rapport à l'Ontario, qui pourrait être la province un peu comparable. Donc, c'est clair qu'au Québec, on a actuellement une augmentation du nombre de cas qu'il faut surveiller. Le bon côté des choses, c'est que pour l'instant, ça ne se traduit pas par une augmentation très importante des hospitalisations ou des patients sévèrement malades aux soins intensifs. Donc, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que la vaccination de masse qu'on a connue au Québec, qui est comparable aux autres provinces, ni mieux ni pire, protège de façon générale la population vulnérable contre, je vous dirais, la maladie sévère. Alors, il y a plusieurs facteurs, probablement le comportement peut-être des plus jeunes, la dynamique à l'intérieur des écoles, on a parlé de peut-être l'aspect de la ventilation qui était un problème au niveau des écoles, etc. Donc, c'est possiblement un ensemble de ces facteurs qui jouent à une augmentation du nombre de cas au Québec, qui devrait augmenter encore plus, parce que quand on voit la courbe et l'accélération de la courbe, ça nous dit que forcément, pendant au moins les 2 prochaines semaines, on devrait continuer à avoir cette trajectoire vers le haut.
Alors là, j'allais vous poser la question. Il y a eu l'annonce cette semaine de l'autorisation de rassemblement pour le temps des fêtes à partir du 23 décembre de 20 personnes vaccinées. Ça, c'est le maximum. Et là, j'ai beaucoup d'auditeurs qui se disent, alors quelle sorte de rassemblement on peut faire avec des enfants qui nous arrivent de l'univers scolaire où il y a beaucoup de cas, des enfants qui ont peut-être même eu déjà, même avec peu de symptômes, la COVID. J'allais vous dire comment on gère ça quand il y a des familles puis des enfants.
Ben écoutez, ça va être du gros bon sens. Alors, c'est que l'idée, c'est qu'est-ce qu'on veut? On veut d'abord protéger les gens vulnérables, c'est-à-dire les personnes plus âgées et les gens qui ont des problèmes de santé. Donc, il faut s'assurer que ces gens-là sont adéquatement vaccinés. Adéquatement vaccinés, on a accès à la troisième dose pour les patients maintenant de plus de 70 ans. Il y a encore des problèmes d'administration au niveau logistique. On voit que c'est pas facile pour les rendez-vous, etc. Il y a certainement des choses à corriger à ce niveau-là parce que c'est pas fluide. Donc, mais il faut essayer d'immuniser le plus possible ce groupe de gens en se rappelant que c'est le moment parce que ça prend à peu près 7 à 9 jours, on va dire, après la troisième dose pour atteindre sa protection maximale. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'essayer de s'assurer que personne ne soit malade au moment d'avoir ces parties de Noël, parce qu'on ne veut pas avoir des gens symptomatiques potentiellement. Il y a l'aspect de la distribution des tests rapides. Ce n'est pas une panacée. Ces tests-là sont moins bons que les tests PCR. Mais chez des gens symptomatiques, lorsqu'on teste ces gens-là, S'ils sortent négatifs, ben c'est encourageant. Et je pense que l'aspect test, si vous avez le moindre doute parce que quelqu'un a des symptômes, donc c'est important de faire tester, c'est entre autres les enfants, pour s'assurer qu'ils soient négatifs. Alors, et si vous gardez toutes ces mesures en place, le risque zéro n'existera jamais, mais là, je pense qu'il faut faire un équilibre entre ce que j'appellerais le bien-être social et psychologique de la société québécoise et, je vous dirais, garder le monde confiné et essayer de d'aller vers un confinement, entre guillemets, comme on a connu l'an dernier. Donc, c'est un risque calculé. Le risque n'est pas zéro, mais si on arrive à garder en tête ces mesures-là, ben, je pense que c'est un risque qui est acceptable.
Dernière question. Beaucoup de parents, on parlait du nombre de cas là, d'enfants qui ont testé positif. Est-ce qu'un enfant qui a eu la COVID doit être quand même vacciné?
Oui, écoutez, alors il faut attendre quand même une certaine période, c'est-à-dire on dit aux gens d'à peu près 3 mois minimum, mais c'est comme pour les adultes, hein, il faut savoir que le fait d'avoir eu la COVID ne vous protège pas forcément à long terme, et ces gens-là doivent continuer à être vaccinés, puis le vaccin a aussi, si vous voulez, entraîne une réponse beaucoup plus ciblée contre le virus que la maladie, entre guillemets, elle-même. Donc oui, il faut vacciner ces enfants-là comme on vaccine les adultes, mais il y a une période d'attente d'environ 3 mois entre, je vous dirais, le moment où les gens ont été malades et le moment où les gens doivent recevoir leur vaccin.
Merci, Dr Weiss. Bonne journée.
Vous aussi.
Au revoir, Dr Carl Weiss, microbiologiste.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
On entre dans la période Noël. Avant de tomber dans la musique, je reçois un courriel hier d'une entreprise et on a demandé, suggéré au chauffeur, il y a plusieurs mois, de se laisser pousser la barbe afin de ressembler à un Père Noël, ce qu'il a fait. Et j'ai vu la photo, puis c'est vraiment original. D'une part, le camion, le design du camion et le Père Noël lui-même. C'est la compagnie Reliure Travaction qui est à Drummondville et le directeur des opérations qui a eu cette idée-là. Bernard Gagnon est avec nous. Monsieur Gagnon, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Faites un peu la genèse de tout ça. Là, vous avez pensé à cette idée-là il y a quoi, quelques mois maintenant?
Oui, bien, il faut dire que notre livreur, Luc Thomasin, à tous les ans, il se laisse pousser la barbe. Il y a toujours une barbe blanche, mais ça laisse toujours pousser un petit peu plus long pendant le temps des fêtes.
Okay.
Et puis là, cette année, au mois d'octobre, on a eu l'idée de mettre un petit peu de sourire sur les faces des gens, parce que c'est pas évident ces temps-ci. On a dit, hey, Luc, qu'est-ce que tu dirais si on faisait décorer le camion, puis tu commençais à te faire pousser la barbe tout de suite, puis tout de suite, ah oui, c'est certain, je vais faire ça. Écoutez, la réponse, c'est tellement drôle. À tous les jours, il arrive de ces livraisons à rien. Hey, aujourd'hui, c'est passé telle affaire, puis aujourd'hui, c'est passé telle affaire. La réponse est tout simplement magnifique.
OK. Pour peut-être décrire, là, on est à la radio, c'est pas facile, mais comment vous avez fait le design du camion là, pour que ça soit, disons, la signature de Noël?
Ben c'est une entreprise locale qui font de l'infographie puis qui font, excusez l'anglicisme, là, du wrapping sur des véhicules. Je leur ai demandé de me faire quelques esquisses pour voir lequel on était pour choisir, puis eux, ils nous ont fait ça là en une journée, le camion était fait, puis c'est juste un wrapping qu'on peut enlever par après, là, parce que c'est au mois de juin, se promener avec un traîneau de Père Noël, c'est pas évident, là.
Non, mais c'est ça, ce qu'on voit, c'est le traîneau, puis dans le fond, ça arrive à la fenêtre du côté du conducteur, donc où on voit votre chauffeur en Père Noël avec sa barbe.
En plein ça, puis c'est ça, c'est quand le chauffeur est vraiment en position de conduite, là, l'image se poursuit, c'est vraiment comme si c'était lui qui était à la grandeur du traîneau, c'est vraiment, ça a été bien réussi.
OK, donnez-moi quelques anecdotes, là, depuis qu'il se promène avec sa tuque puis son traîneau, là, la réaction des gens.
Ben, écoutez, la première, c'est nous de Drummondville, on se promène beaucoup sur les autoroutes là, parce qu'on fait la rive sud de Montréal, puis on va jusqu'à Québec également aussi. Mettons sur l'autoroute 20, il est dans la voie de droite, il se fait dépasser par un véhicule, le véhicule va ralentir, il va se remettre à côté de lui, il va baisser la fenêtre côté passager, puis il va prendre une photo. Chose qu'on recommande pas à personne de faire, là.
Non.
C'est des choses qui arrivent. Écoutez, juste hier après-midi, il faisait une livraison dans une petite municipalité sur la rive sud de Montréal. La bibliothèque municipale est en face de l'école primaire. En sortant de la bibliothèque, après sa livraison, il y avait deux enfants qui étaient dans une fenêtre de classe. Il leur a envoyé à main. Ça a pris 10 secondes, puis la classe au complet était devant la fenêtre. C'est des choses comme ça qu'on voit à longueur de journée. Là.
Incroyable. Ben, c'est une très, très belle idée. Ça fait du bien de vous entendre. Merci, M. Gagnon.
Ça fait plaisir, M. Arcand. Bonne journée.
OK, bonne journée. Alors, c'est une entreprise de reliure. Et par exemple, des dictionnaires brisés dans les écoles, puis des trucs comme ça. Je vais essayer de partager la photo peut-être sur nos réseaux sociaux pour que vous puissiez voir ça. Donc, la compagnie Reliure Travaction.
L'essentiel de Paul Arcand.